Bonjour Jacques Naveau, nous découvrons ensemble aujourd'hui la suite du patrimoine mayennais en feuilletant votre ouvrage paru cette année, Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir. Nous allons nous intéresser spécialement aujourd'hui à Laval et son agglomération, ou du moins ce qu'on appelle dans votre livre la région de Laval. Je rappelle que votre livre est disponible en librairie et qu'il est publié par la SAHM, Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, avec le concours du Conseil général.
Oui, Laval et sa région, en fait, on va très peu parler de Laval, ou sinon on y passerait tout son temps. Donc, je le mentionnerai bien sûr Laval, oui. mais je vais peut-être insister un peu plus sur le patrimoine qui est autour. Mmh. Alors, ce qui caractérise cette région de Laval, c'est d'abord d'avoir un patrimoine antique qui est notable, important, grâce aux termes d'Entrammes. Les termes gallo-romains conservés dans un état pareil, il n'y en a pas partout en France, loin de là, en particulier dans la partie nord de la France, ça fait partie des monuments les mieux conservés pour cette époque antique dans le nord de la France. Entrammes, ça a été une ville dès l'époque gauloise, il y a eu ce qu'on appelle un oppidum, une ville fortifiée en bordure de la Mayenne, au confluent de la Jouanne, et puis eh bien cette ville gauloise a donné naissance à une ville romaine qui s'est développée le long d'une voie importante reliant Le Mans à Rennes, et c'est grâce à cela bien qu'ont été construits ces termes qui sont conservés, qui sont intéressants puisqu'on peut y saisir comment fonctionnaient les termes romains, ce qu'on y faisait, comment on y passait la journée, mais qui sont aussi intéressants pour une autre raison, c'est que s'ils ont été conservés, c'est parce qu'ils ont été transformés en église très tôt, et on a sous les yeux des traces de ces premiers aménagements de l'église paléochrétienne d'Entrammes, aménagements qui peuvent remonter à l'extrême fin de l'époque romaine ou au tout début du Moyen-Âge. Il y avait un monastère et il était certainement autour de cette église, mentionné en 832, et qui a d'ailleurs peut-être eu l'honneur de recevoir Charles le Chauve, puisque on sait que le roi Charles le Chauve est venu rencontrer le roi des Bretons Salomon à Entrammes en 863. Ce serait pas surprenant que tout ça se soit passé à l'intérieur de ces anciens termes. Parmi les patrimoines anciens aussi, je voudrais en mentionner un autre, c'est Saint-Jean-sur-Mayenne, le monastère Saint-Trèche, parce que là on est sur des choses encore plus rares. Le haut Moyen-Âge, époque mérovingienne et époque carolingienne, vous savez, on laissait très peu de traces. Or, il y en a à Saint-Jean. On voit au bord de l'Ernée, quand on entre dans le bourg de Saint-Jean en venant de Laval, un haut mur à contrefort avec des cordons de briques construits un peu à l'antique. Mais en réalité, ce mur appartient à un monastère qui est mentionné dans les textes, qui s'appelait le Buxiolus, ça a donné en français le boisseau, c'est encore le nom d'un moulin qui est tout près de là. Et ce monastère, donc, qui aurait sans doute été fondé au début au 7e ou au tout début du 8e siècle, eh bien, a eu son heure de gloire, si j'ose dire. En 854, Charles le Chauve l'a donné au moine de Noirmoutier, qui avait un gros problème avec les Vikings, avec les Normands, qui avaient été chassés de l'île de Noirmoutier en 836. Il s'était installé dans un premier temps dans la région nantaise, à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Et en 847, ils ont dû quitter Saint-Philbert-de-Grandlieu. Alors, sont-ils passés à Saint-Jean-sur-Mayenne? On ne sait pas, mais en tout cas, Saint-Jean leur appartenait à partir de 854, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, ils ont ensuite continué leur pérégrination, puisqu'on les a retrouvés après ça à Cuneau, dans le Maine-et-Loire, et puis ils ont fini à Tournus, en Saône-et-Loire, où ils ont fondé la fameuse abbatiale de Tournus.
Magnifique.
Ils y sont arrivés en 875. Donc voilà, un petit patrimoine là, peu connu, modeste, facile à voir, et qui mérite d'être visité.
Alors maintenant, nous allons aller au cœur de la seigneurie de Laval.
Oui, bien sûr, Laval, château fondé vers 1020-1030 par un seigneur venu d'Avoise, qui est venu ici. On pense maintenant que, en fait, s'il a choisi de s'installer dans cette région, c'est parce que c'était la région de sa seconde épouse, Rotrude, qui appartenait à la famille de Château du Loir, dont les ancêtres sont dans la région lavalloise, ou plus exactement à Argentré. Et donc, c'est ça qui a déterminé ce choix de venir s'installer à Laval. Et on constate à Laval quelque chose qui se répète ensuite dans les bourgs des environs, c'est-à-dire une espèce de trilogie château, prieuré, création d'un bourg. Voilà.
Ah, oui.
Le seigneur de Laval, qui avait besoin de l'appui de l'église, a fondé un prieuré à Saint-Martin, Il l'a donné vers 1055 à l'abbaye de Marmoutier, située près de Tours, vous le savez. Et donc, les moines de Marmoutier se sont installés à Saint-Martin et ont fondé un bourg sur un terrain qui leur avait été donné par le seigneur de Laval. Mais ce phénomène-là se répète un peu partout dans la région lavalloise. Par exemple, à La Gravelle. La Gravelle, il subsiste à La Gravelle des éléments d'un vieux château à mottes, un château en terre du début du XIIe siècle qui appartenait directement au seigneur de Laval. C'est une sorte de place avancée des Laval face à la Bretagne, juste à la frontière. Eh bien, même chose, Guy V de Laval a donné à Saint-Martin-de-Tours, entre 1155 et 1164, de quoi créer un bourg monastique. Et ce qu'il en reste de ce bourg monastique, on l'a sous les yeux, c'est l'église. Et l'église de La Gravelle est une église de la seconde moitié du XIIe siècle, bien intéressante d'ailleurs par tout un tas de détails, notamment une chapelle voûtée sur croisée d'ogives, très précoce, voûte du XIIe siècle. Autre exemple, Bazougé. On a à peu près le même phénomène à Bazougé. À Bazougé s'installe une famille du premier cercle qui entoure les Laval. C'est la famille d'Antenez. Ce sont des gens familiers, si vous voulez, des proches des Laval. Et les Laval les installent à Bazougé, notamment sans doute pour contrôler un chemin qui était très important pour la seigneurie, puisque c'est le chemin qui menait de l'endroit d'où ils venaient, à Voise, à l'endroit où ils se sont installés, Laval. Et ce chemin dont on a pu reconstituer le tracé passe par Bazougé. Donc, à Bazougé, un château est fondé sans doute au XIe siècle en faveur de la famille d'Antenez. Il en reste la motte seigneuriale qui est encore en place, que l'on peut voir. Et vers 1080, eh bien, les seigneurs de Bazougé créent un prieuré en faveur de Saint-Vincent du Mans. Et un bourg monastique s'installe, et de ce bourg monastique, eh bien, la trace la plus évidente, c'est l'église romane de Bazougé, une église qui a des parties romanes encore bien conservées, notamment une crypte, ce qui n'est pas très fréquent dans notre département. Je vous donne un autre exemple, Parnay-sur-Roc. Eh bien, c'est précisément la famille de Château du Loir, c'est-à-dire la famille de cette seconde épouse de Guy Ier de Laval. Mmh. Cette famille possédait, entre autres, Parnay-sur-Roc. Elle était originaire, je vous l'ai dit, d'Argentré. Et Adam de Château du Loir, neveu d'un évêque du Mans, vers 1090, donne l'église, qui existait déjà, de Parnay à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, et un terrain pour y créer un bourg, et ça a donné le bourg de Parnay,
ah oui, très
que l'on voit aujourd'hui, où d'ailleurs subsistent encore des éléments d'habitat ancien, puisqu'il y a des maisons de la fin du Moyen-Âge, aussi bien maisons en pierre, avec tourelles d'escalier, que maisons à pans de bois, sur le bord du vieux chemin qui menait de Sablé à Laval et qui passait à Parnay. Je termine par un dernier exemple, c'est Courbevel. Courbevel, un château à mottes qui véritablement détermine tout le paysage du bourg, puisque le bourg s'est construit autour de ce château à mottes qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est encore entouré de douves en eau. Et ce château, qui appartenait à une famille locale, la famille de Couëm, est entré dans les biens des seigneurs de Laval et a doté les branches cadettes des seigneurs de Laval, par exemple, au XVe siècle, André de Loéac, qui était le frère cadet de Guy XIV de Laval, a obtenu Courbevel. Donc, vous voyez, cette
trilogie qu'on retrouve.
C'est ça. Ouais. On le retrouve dans bien des cas dans la région lavalloise.
Et alors, est-ce que c'est une caractéristique pour la région de Laval que les abbayes?
Alors, les abbayes, il n'y en a pas énormément en Mayenne, mais il y en a deux dans la région de Laval. Alors, une ancienne et une beaucoup plus récente. Celle qui est ancienne, c'est évidemment Clermont. Ouais. Clermont, sur la commune d'Olivet, a été fondée avant 1152. Clermont, devenu bien national lors de la Révolution, a failli disparaître purement et simplement et a été sauvé, vous le savez, grâce à son acquisition en 1954 par deux dames qui se sont vouées à la renaissance de Clermont. Alors, grâce à ça, on a sous les yeux un édifice cistercien, sinon en parfait état, mais en tout cas extrêmement conservé,
ouais,
tout de même.
Son jeu, hein.
Attends,
oui,
absolument.
Oui.
L'église a un plan cistercien très caractéristique, avec un chevet plat, des chapelles orientées qui donnent sur le transept et qui sont toutes tournées vers l'Orient. Et puis alors, bien, c'est une église d'influence normande là aussi, c'est-à-dire non voûtée. Et c'est ce fait d'ailleurs qu'elle soit non voûtée qui permet d'avoir un chevet extrêmement haut, avec donc une succession de trois étages de fenêtres sur le chevet. Il y a d'autres parties anciennes à Clermont, en particulier le bâtiment des Confères, très bien conservé du XIIe siècle, la porterie qui date également de la fin du XIIe siècle, et même le bâtiment des moines, qui est le bâtiment que l'on voit quand on arrive, ça apparaît comme un bâtiment du XVIIIe siècle ou du XVIIe, mais non, pas du tout, c'est un bâtiment du XIIe, mais modifié au XVIIe. Il a été pas refait, mais on a refait de nouvelles fenêtres en fermant les anciennes, mais on les voit encore très bien dans la construction. Ce remaniement a été fait vers 1650 par les frères Langlois, qui étaient des importants architectes lavallois de cette époque. Alors l'autre abbaye, c'est Port du Salut, mais Port du Salut n'a pas la même histoire. Port du Salut n'existait pas en tant qu'abbaye au Moyen-Âge. Ce qui existait là-bas, c'était un prieuré de chanoines qui avait été fondé au XIIIe siècle, en 1233, par le seigneur d'Entrammes. Et ce prieuré a été acquis en 1815 par la congrégation qui a créé l'abbaye de Port du Salut. Donc c'est devenu abbaye au XIXe siècle, après la Révolution. Et donc ils ont modifié sans détruire. Il reste encore, quand on va à Port du Salut, on voit encore l'essentiel de l'église du XIIIe siècle qui est conservée. Et qu'on voit très bien des arcatures qui sont typiques du XIIIe siècle dans ce bâtiment. À côté de ça, il y a des parties beaucoup plus modernes, et notamment un moulin qui a été rebâti en 1858 et qui a été transformé au début du XXe siècle en centrale électrique.
Oui, ça fera partie du patrimoine industriel presque.
Si je peux dire, oui, absolument.
Oui. Nous allons faire une pause et nous reprenons après un peu de musique. Sur Fidélité Mayenne, nous recevons pour notre émission Histoire et Patrimoine Jacques Naveau, qui nous fait découvrir aujourd'hui les richesses du patrimoine de la région de Laval. Nous en étions aux abbayes, et vous vouliez aussi nous parler d'autres édifices religieux essentiels pour cette région.
On peut, si on le veut, faire une sorte d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture à Laval à travers les édifices religieux. Par exemple, l'époque carolingienne, eh bien, c'est l'église de Pritz. Je pense qu'elle est du 8e siècle. Et en tout cas, c'est un petit édifice carolingien, agrandi plus tard, mais en tout cas, dont les parties carolingiennes sont très bien conservées. L'époque romane, alors là, on a que l'embarras du choix. On pense à Avenières, bien entendu, qui est un prieuré de l'abbaye du Ronceret d'Angers, fondé vers 1070, et une église dont la construction se déroule pendant tout le 12e siècle, sans doute encore un petit peu au début 13e, et qui nous permet donc de voir ainsi un édifice d'esprit roman se terminer par un édifice gothique, enfin avec des voûtes gothiques en tout cas, mais voûtes gothiques très très précoces. L'esprit roman reste l'essentiel dans cet édifice-là. Et autour, on trouve par exemple Montjean, un édifice du XIIe siècle extrêmement intéressant, dont l'essentiel de l'architecture XIIe est conservé, avec en particulier une croisée très importante du point de vue architectural, enfin très très prégnante, qui avait été faite sans doute en prévision d'un transept qui, lui, n'a été réalisé que beaucoup plus tard, puisqu'il n'a été construit qu'au XIXe siècle. Donc vous voyez toutes les époques, hein, carolingien, l'époque romane, l'époque gothique, c'est pas la mieux représentée, ni dans la région de Laval, ni dans l'ensemble de la Mayenne, mais enfin, ça a donné tout de même la nef de la Trinité, c'est-à-dire la cathédrale de Laval, l'ancienne église de la Trinité, qui a une nef de type gothique angevin. Alors c'est un style gothique tout à fait particulier, hein, qui a vraiment pas grand-chose à voir avec le gothique français. Mais le chœur, par contre, refait au 15e siècle, et lui a un chœur beaucoup plus classique, si j'ose dire. Les Cordeliers, une église qui date de l'extrême fin du 14e, début 15e siècle. Bon, le 19e siècle a rajouté un bas-côté, mais le reste, et des voûtes, le reste date de la fin, des alentours de 1400. Alors, la Renaissance est très bien représentée. Bien sûr, c'est l'époque de Saint-Vénérand de Laval, édifice absolument majeur pour la Renaissance, non seulement pour son architecture. C'est une église qui a été commencée en 1485 et où les travaux se sont poursuivis pendant près d'un siècle, jusqu'en 1565, date inscrite sur la voûte du chœur, qui marque la fin des travaux. C'est ce qui est écrit sur l'inscription, d'ailleurs. Mais il n'y a pas que de l'architecture, il y a aussi des vitraux. Les deux plus beaux vitraux Renaissance sont en Mayenne, sont à Saint-Vénérand. La crucifixion, qui date de 1521, et l'histoire de Moïse, qui a été faite 4 ans plus tard. Mais en dehors de Laval, nous disposons d'un autre édifice important, c'est la chapelle Rinsoin. Chapelle Rinsoin est une église romane qui a été, comme toujours, modifiée au cours des âges et où on a franchement ajouté une très grande chapelle seigneuriale latérale contre la nef, enfin disons à la jonction de la nef et du chœur. C'est la chapelle donc des seigneurs de la chapelle Rinsoin, construite vers 1500 par Olivier de la Chapelle et sa femme Artus de Melun. Très caractéristique du début de la Renaissance. On voit par exemple l'abandon de l'arc brisé pour un retour à l'arc en plein cintre, qui caractérise bien cette époque-là. Un art très ornemental, notamment un pilier complètement hélicoïdal, qui est absolument comparable à un pilier qu'on peut voir au chevet de Saint-Séverin à Paris. On a exactement le même. On est là vraiment à la transition entre le gothique flamboyant et la Renaissance italienne, avec un mélange des deux choses qui est tout à fait intéressante à constater. Artus de Melun, son mari une fois décédé, a fait construire des chapelles, et notamment une chapelle pour une mise au tombeau.
Qui est
absolument remarquable, où il exprimait évidemment la douleur de son veuvage, et ce qui nous vaut une très belle sculpture datée de 1522. Plus tard, 17e, 18e siècle. Alors voilà des siècles qui ont très peu bâti en Mayenne, du point de vue religieux. Mais il y en a quand même dans la région de Laval, c'est celle du Bourgneuf-la-Forêt. Une église reconstruite totalement entre 1700 et... Enfin, ça commençait en 1700-1702. Bien sûr, les travaux ont duré un peu plus longtemps, puisque le décor n'a été réalisé, lui, que... en 1755. Mais enfin, ce qui est important pour le 17e, 18e, c'est moins l'architecture des églises que leur décor, avec la fameuse école des retabliers lavallois, qui a eu son apogée dans les années 1630-1660, avec des familles comme les Corbineau, les Langlois. Si on veut en voir, bien, il faut aller notamment au Cordelier, oui, où là, on a un véritable musée de l'art lavallois, ou bien également voir le grand retable de la cathédrale de Laval. Parmi ces grands ensembles décoratifs du XVIIe siècle et du XVIIIe, il faut penser à Saint-Berthevin-les-Laval et surtout à Bonchamp-les-Laval, avec une église qui a été entièrement redécorée grâce à un curé Ménard du Halay, qui a fait refaire tout le décor dans les années 1756-1771, la pièce maîtresse étant la fameuse chaire en fer forgé, faite en 1768 par un Lavallois, Jean-Baptiste René Lafosse. Vous voyez, beaucoup de choses. Le 19e siècle, moi, je mettrais une mention particulière à la façade de l'église de Changé, commencée en 1869 par l'architecte Renoux, et qui est d'une très grande élégance, je trouve.
Oui.
Malgré tout, elle n'a pas l'aspect que l'architecte aurait voulu lui donner, puisqu'il voulait mettre une flèche, mais arrivé au sommet des murs, il s'est dit qu'il valait mieux s'arrêter là. C'était pas très très solide, et c'est souvent le problème de ces édifices. Et puis pour le XXe siècle, eh bien je citerai Saint-Paul de Laval, qui est très caractéristique de l'art moderne, du modernisme, par ces formes triangulaires, vous voyez, qui sont en rupture avec les formes rectangulaires du passé, mais aussi avec un souci de simplicité qui est très caractéristique aussi de cette époque des années 60. Saint-Paul a été construit en 1963 par les architectes Osna et Valentin. Donc vous voyez, toutes les époques de l'art religieux sont représentées.
Oui, on a aussi mis une plaque pour un patrimoine 20e siècle au Carmel de Laval. Enfin,
oui, qui le mérite.
On ne peut pas le visiter entièrement, mais,
non, mais oui, c'est tout à fait caractéristique. Tout à fait caractéristique.
Oui, vous dites que toutes les périodes sont représentées dans la région de Laval, mais elles sont aussi représentées dans l'habitat.
Oui, c'est pareil. Le Moyen-Âge, eh bien, c'est évidemment surtout à Laval qu'on va le voir, les maisons à pans de bois, les maisons en pierre, mais à Parnay-sur-Roc, je vous signalais tout à l'heure. L'époque moderne, eh bien, là, un petit tour dans le patrimoine vraiment rural des régions agricoles, c'est la closerie des Poiriers à Saint-Ouen-des-Toits qui nous restitue ce qu'était un édifice plus que modeste au XVIIIe siècle. C'est la maison de Jean Cottreau, célèbre Jean Chouan, et qui est devenu un musée donc de la chouannerie et de la Révolution, mais également où on touche vraiment ce qu'était la vie des campagnes au XVIIIe siècle. Et puis il y a les maisons de tisserands qui malheureusement elles ont beaucoup souffert. Il en reste souvent que quelques traces. On voit dans les villages ou à Laval quelques caves de tisserands, puisque les tisserands travaillaient dans les caves parce qu'il leur fallait un degré d'humidité pour que le fil ne casse pas. Mais enfin c'est un habitat qui a beaucoup disparu, alors qu'à l'inverse l'habitat riche des propriétaires de forges ou bien des grands commerçants tisserands, des grands marchands de toile, lui au contraire est très bien représenté, à Laval même bien entendu, tout le quartier autour du lycée Ambroise Paré est très représentatif de cette architecture du XVIIIe siècle essentiellement. Le 19e siècle, eh bien, le 19e siècle a considérablement marqué Laval, tous les quartiers allant vers la gare, par exemple, ou le long de la Grande Traverse, datent de cette époque-là, mais également dans les bourgs. Les bourgs de la Mayenne ont été transfigurés en quelque sorte par le 19e siècle. Mmh. Il y a finalement relativement peu de patrimoine d'habitat conservé dans les bourgs, tellement le 19e siècle a été actif, à la faveur certainement de la révolution agricole, qui a connu la Mayenne à cette époque-là. Alors parmi les bâtiments qu'on peut mentionner, mentionnons la mairie de Changé. C'est un ancien château néo-renaissance, avec une partie contemporaine, puisqu'en 2003, on lui a ajouté un bâtiment dont le principe est d'être en complet décalage par rapport au bâtiment renaissance. Il ne cherche pas du tout à se fondre dans le oui. bâtiment renaissance. On peut signaler le château de l'Enfrière à Montjean, un château du 19e siècle, qui a un beau parc paysager et qui est ouvert en général au public aux journées du patrimoine. Oui. Donc vous voyez, différentes périodes représentées par des choses variées, mais là on n'en finirait pas de vouloir toutes les énumérer.
Et alors maintenant on peut passer au site industriel, bon en dehors de Laval j'imagine, parce que là il y aurait trop à dire.
Aux portes de Laval, disons, l'industrie la plus ancienne dont on a des traces est celle des potiers, qui ont travaillé à Saint-Pierre-le-Potier, au bord de la Mayenne. On est encore sur la commune de Laval, mais enfin on est loin du centre-ville, et où il reste une très belle chapelle du XIe siècle. L'artisanat lui-même de la poterie, ses premières traces remontent au XIIIe siècle. Peut-être qu'il y en a eu avant, pour le moment on n'en a pas la certitude, mais à partir du XIIIe siècle, cet artisanat a été important dans les campagnes autour du bourg. Hein, c'est pas dans le village de Saint-Pierre même, et c'est surtout dans les fermes autour que l'on trouve les traces de ces artisans. Et puis alors cet artisanat a rebondi en quelque sorte après la guerre de Cent Ans. Il a dû connaître des difficultés au moment de la guerre de Cent Ans, et après la guerre de Cent Ans, on le voit se développer, mais cette fois dans des villages nouveaux. À Saint-Pierre, cela continue, mais on voit créer des hameaux de potiers comme les Godinières, qui sont tout près de Forcé, mais qui appartiennent à la commune de Bonchamp, ou bien Théval, à la sortie de Laval, Le Rocher, sur la commune d'Entrammes. Donc voilà une activité, vous voyez, dont on voit encore des traces matérielles dans ces fameux hameaux, dans ces bourgs.
Dans l'habitat, oui.
Alors sinon, bien, la métallurgie est toujours présente en Mayenne, et ici, pour la région de Laval, c'est Port-Briec qu'il faut mentionner. Une métallurgie attestée dès le milieu du XVe siècle, et surtout des grosses forges créées en 1621 par le comte de Laval, qui certainement voulait valoriser ses forêts, et grâce à la création d'un étang, et la construction de deux hauts fourneaux, ce qui est tout à fait exceptionnel d'ailleurs à cette époque-là pour un même établissement. Ce site s'est développé. Au 19e siècle, il travaillait surtout pour la clouterie. Et puis, à la fin du 19e, vers 1860, il a abandonné le travail du fer pour se spécialiser dans la fonte, ce qui a donné les fameuses fabrications de cuisinières chapées, vous savez, oui. À partir de 1882. Un site à visiter, parce que ce qu'on voit surtout à Port-Briet, il y a des traces de anciennes fonderies du 19e, mais on voit aussi, surtout, l'habitat collectif
qui s'est caractéristique,
qui s'est développé à l'extrême fin du 19e. On voit une fontaine en fonte, créé en 1895 pour les ouvriers, les bains-douches, l'église dans laquelle le fer intervient dans la construction, enfin des choses qui sont extrêmement caractéristiques. Enfin, je mentionne les fours à chaux, avec tout particulièrement le gros ensemble de Saint-Berthevin-les-Laval, l'ensemble des brosses, qui est ouvert, qu'on peut voir au moment des journées du patrimoine, à un ensemble qui est intéressant parce qu'il y a non seulement des fours à chaux, mais il y a tout ce qui va avec. Enfin, je signale comme ça un moulin, la meunerie, les moulins à vent, il n'y en a pas beaucoup en Mayenne, donc quand il y en a, autant le signaler, c'est le moulin de la Papelonnière sur Bazougé, qui a été restauré par des gens qui ont fait leur habitation. Ce bâtiment était en ruine complète. Bon, on le visite pas, mais enfin, on le voit depuis la route. On le voit depuis la route quand on passe devant. Autant y jeter un coup d'œil. C'est un moulin qui date de 1826.
Eh bien, quel tour d'horizon. Merci beaucoup, Jacques Naveau. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain dans notre émission Histoire et Patrimoine. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions de la SAHM. Le patrimoine de la Mayenne, 500 sites à découvrir avec le concours du Conseil général. Merci, au revoir.
Au revoir.